Bon, alors à l'aube d'une nouvelle décennie, on voulait ce matin faire le point sur le maudit cancer. Parce qu'on peut pas dire le mot cancer tout seul. Dans le langage, il y a toujours un petit blasphème avant parce que vraiment, le cancer est omniprésent dans nos vies. Le cancer demeure d'ailleurs la principale cause de décès chez nous au pays. Mais on voulait en parler ce matin d'un point de vue un peu plus positif. C'est que, bon, évidemment, la bataille n'est pas gagnée, mais on fait des petits pas, puis on est dans la bonne direction. Alors, on voulait faire le point ce matin avec le docteur Régent Lapointe, qui est directeur scientifique de l'Institut du cancer de Montréal, sur les avancées qui ont été faites au cours des dernières années et regarder un peu ce qui s'en vient et s'encourager dans le traitement du cancer. Bonjour, docteur Lapointe.
Oui, bonjour.
Bon, alors quand je dis que c'est une bataille qu'on gagne à tout petit pas, parce que on regarde les taux de mortalité diminuent, je pense depuis les 30 dernières années, c'est 20% moins de mortalité chez les femmes, 35% chez les hommes. Donc, ça s'améliore quand même, là.
Ça s'améliore. Le cancer reste un défi absolument magistral pour un biologiste comme moi. Je dis toujours que c'est une beauté d'horreur à quel point c'est complexe et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qu'on pourra peut-être un peu en discuter. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'effectivement, année après année, on a de plus en plus de succès en traitement contre le cancer. Et on a toutes les raisons d'être optimiste et surtout dans la dernière décennie, il s'est passé des choses absolument révolutionnaires dans le traitement de l'oncologie. Et peut-être on va pouvoir en parler tout à l'heure.
Ben oui, tout à fait.
On parle toujours des trois principaux types de traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Ça s'améliore dans ces domaines-là aussi, mais maintenant, il y en a une quatrième qui s'est ajoutée, qui est l'immunothérapie. Et ça, c'est vraiment en train de changer la pratique en oncologie.
C'est révolutionnaire.
Absolument. Là. On fait pas de miracle encore. Là. Soyons honnêtes, et ça reste encore un énorme défi, le cancer. Mais franchement, on a toutes les raisons d'être optimiste pour les prochaines années. C'est
clair. Quand on dit, docteur Lapointe, que le taux de mortalité diminue considérablement, là, ça ne fait pas qu'il y a moins de cancers qui sont diagnostiqués parce que le cancer est toujours à la hausse. Donc, il y a plus de cancers diagnostiqués, mais le taux de mortalité diminue. Comment vous l'expliquez?
Une des raisons, c'est qu'on détecte maintenant les cancers avec en radiologie, dans toutes sortes de techniques d'imagerie dans les hôpitaux. Maintenant, on est capable de détecter le cancer plus tôt, dans plusieurs types de cancers. Donc, plus le cancer est précoce quand on le prend plus tôt, meilleures sont les chances de guérison quand on donne les thérapies. Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre point qu'il faut considérer, c'est qu'on le cancer, ça reste encore une maladie reliée à l'âge. Le taux de cancer augmente
avec les
tranches d'âge qui augmentent. Donc, c'est sûr qu'avec la population qui est davantage vieillissante, c'est sûr qu'on est appelé à avoir peut-être plus de cancers, donc qui vont être détectés ou qui vont être observés dans la population. Maintenant, on dit une personne sur deux. Avant, on disait une personne sur trois il y a quelques années. Maintenant, c'est une personne sur deux qu'on estime qu'il va avoir dans sa vie le cancer. Donc, ça nous touche soit directement ou ça nous touche indirectement parce que c'est les gens qu'on aime autour de nous. Donc, ça reste encore un gros défi, mais effectivement, on détecte plus tôt et on est de plus en plus efficace.
La prise en charge a changé beaucoup aussi à travers les années, docteur Lapointe.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Je pense par exemple au traitement personnalisé, parce que il y a quelques années à peine, quand quelqu'un avait un cancer, par exemple du poumon, ben le traitement c'était ABC. Là. Alors aujourd'hui, pour un autre patient, ça peut être BCD. C'est vraiment différent la façon dont on aborde la maladie avec le patient qui est devant nous, là.
Plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte que le cancer, c'est pas une maladie. Bon, ça, on le disait il y a déjà très longtemps. Le cancer, je sais pas, c'est peut-être 35, 40 sortes de maladies différentes. C'est poumon, cerveau, sein, prostate, etc. Donc, il y a
et chaque cancer en soi, le jour où on pourra dire on a vaincu le cancer, c'est impossible.
Oui.
chercheur ne veut pas entendre
ouais,
ça.
J'ai mes lunettes roses.
Mais
moi.
Parce que ça voudrait dire arriver à combattre tous les cancers, ce qui est un défi de taille. Là.
Je ne peux pas vous donner la date où ça va arriver. Là,
mais vous pensez que ça va arriver.
Mais je pense que ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir faire du cancer soit... maintenant, on est capable de guérir des cancers qui étaient déjà... On pensait qu'ils n'allaient pas être curables avec l'immunothérapie. Il y a des patients qui ont détecté plus de cancer pendant des années. Alors que d'habitude, c'était des cancers qui étaient malheureusement très mortels.
Donc, lesquels, par exemple?
Je pense au cancer de la peau malin, par exemple, le mélanome, où maintenant, la survie à 5 ans était très, très, très faible. Maintenant, on est capable de voir des réponses avec les nouvelles immunothérapies, donc de solliciter le système immunitaire contre le cancer. On voit à 20, 30, 40, 50 % des patients qui vont avoir une réponse à l'immunothérapie. Et plusieurs vont en quelque sorte en être guéris. Donc, il n'y aura plus de cancer pour des années et des années, voire des décennies. Donc, et il y a d'autres types de cancers qui sont comme ça. Donc, comme le cancer, certains autres cancers qu'on est capable d'avoir des réponses très impressionnantes dans la maladie qui était métastatique. C'est là qu'il est le défi en cancer aujourd'hui. C'est la maladie métastatique, quand malheureusement, il y a des métastases qui se présentent.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que oui, vous avez raison, mais et même dans un même type de cancer...
Il y a plusieurs formes.
Oui. Et ce qu'il va faire pour M. Tremblay, il ne fera pas pour Mme Bouchard. Et donc, il faut trouver ce qui est spécifique à chaque personne, à chaque cancer. C'est ce qu'on appelle, je pense que vous avez dit le mot précision, la médecine de précision, c'est ce qu'on veut faire. On est capable de maintenant de séquencer l'ADN, toute l'ADN d'une personne, ce qui était impensable il y a quelques années. Maintenant, je pourrais séquencer votre génome en quelques heures. Aujourd'hui, on peut faire ça. Donc, on peut trouver des mutations. Et pour certaines mutations, on a des médicaments qui peuvent tuer les cellules qui ont ces mutations-là. C'est peut-être 5, 10, 15 % des cancers comme ça. Donc, c'est la médecine de précision. Et dans les dernières années, ça va très, très, très vite à ce niveau-là. Et même le gouvernement canadien a mis 150 millions de dollars récemment pour l'initiative lancée par Terry Fox, qui s'appelle le Marathon de l'espoir.
Oui.
Et ce qu'on souhaite faire, et Montréal est très, très, très à l'avant-plan.
Montréal est véritablement, et tout le Québec, mais Montréal est une plaque tournante dans le domaine de la recherche. Là.
Absolument, absolument. Et avec cette initiative-là qui est pan-canadienne, ce qu'on veut faire, c'est séquencer 15 000 cancers en 5 ans. Et à Montréal, on espère être capable d'en faire le tiers. Là, on est optimiste, mais vraiment, le but étant de trouver des mutations pour lesquelles on a des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses.
Quand vous regardez, Dr Lapointe, ce qui s'est passé à travers les années dans le traitement, par exemple, du cancer du sein, du cancer de la prostate, parce que qui sont les deux principaux cancers chez la femme et chez l'homme, ça a vraiment évolué à une vitesse vertigineuse. Le traitement, la prise en charge, la prévention aussi.
Et la détection précoce.
Et la détection précoce, c'est très important.
Personne n'aime ça, là, mais bon, que voulez-vous? Le toucher rectal, ça peut avoir son utilité.
La mammographie aussi.
Ça, c'est controversé
un peu. Oui, tout à fait, oui.
Mais quand même, malgré ça, on est capable de détecter les cancers vraiment de façon plus précoce. Et c'est ça qui fait une bonne différence aussi.
Bon, et j'aimerais qu'on parle un peu de l'immunothérapie, parce que c'est dans le langage hospitalier. Là, on entend beaucoup parler d'immunothérapie, mais concrètement, c'est difficile à cerner. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement d'immunothérapie, docteur?
Je peux vous donner un cours d'immunologie. Une minute.
En une minute? Prenez-en
non,
deux.
Il n'y aura pas d'examen. Donc, en immunothérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le système immunitaire qui est en nous, qui nous aide à lutter contre la grippe, contre les rhumes, contre les mauvaises bactéries ou les virus, et de le retourner contre le cancer. Et c'est très complexe, le système immunitaire. Il y a toutes sortes de cellules différentes, dont les lymphocytes. Donc, c'est vraiment les lymphocytes qu'on veut activer contre le cancer.
Et réveiller.
Les réveiller.
Parce que le rôle du système immunitaire, ce serait de le combattre, le cancer.
Mais les cellules cancéreuses, quand je disais qu'il était une beauté horrible, plutôt, c'est qu'elles sont capables d'endormir les lymphocytes. Les lymphocytes sont là, ils ont la capacité de tuer les cellules cancéreuses, mais ils sont endormis par les cellules cancéreuses. Et un lymphocyte, c'est comme une voiture. Il y a une clé. Il y a un volant. Ça donne la direction. Hein. Moi, je ne peux pas démarrer votre voiture avec ma clé de voiture à moi. Donc, chaque lymphocyte est spécifique. Il y a des lymphocytes contre le virus de la grippe. Il y a des lymphocytes contre le virus qui donne le rhume. Et il y a des lymphocytes qui sont capables de tuer les cellules cancéreuses parce qu'ils ont la bonne clé. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est réveiller
trouver
ces lymphocytes-là.
La clé.
Et pour continuer sur la voiture, un lymphocyte, ça a des pédales d'accélérateur et des pédales de frein. Donc, ce qui est la beauté de l'immunothérapie, et ça a donné le prix Nobel à ceux qui ont découvert ce principe-là, Dr. Allison et Honjo, on est capable de, au lieu de mettre le pied sur l'accélérateur, on bloque le frein. Et c'est ça que la révolution présentement en oncologie, c'est qu'on donne des médicaments qui bloquent les freins des lymphocytes et entre autres des lymphocytes qui ont la clé contre le cancer.
Et dans le traitement, par exemple, vous le disiez, du cancer de la peau, ça a des effets spectaculaires.
Oui.
Est-ce que ça a des effets aussi pour d'autres types de cancers dans le traitement?
Oui, il y a d'autres cancers. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque mois, on voit des nouvelles indications qui sont acceptées par Santé Canada et l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis pour utiliser comme traitement standard en cancer du poumon, en cancer du rein, en mélanome, cancer de la peau, évidemment, et d'autres types de cancers. Malheureusement, il y a des sortes de cancers. Il faut encore travailler pour que ça fonctionne et que ça fonctionne mieux. Mais dans plusieurs types de cancers et surtout de la maladie métastatique où malheureusement, la maladie est très agressive. On n'avait plus beaucoup de médicaments disponibles pour les patients. Maintenant, avec l'immunothérapie, on a un nouvel outil dans notre boîte à outils.
Bon, Dr Lapointe, on va s'arrêter pour une courte pause. Au retour, j'aimerais que vous me parliez de cette découverte qui a été faite à l'Institut au cours de l'année 2019 sur la signature, justement, d'une réponse immunitaire inefficace, là, la raison pour laquelle le système immunitaire ne se réveillait pas, que vous avez réussi à révéler finalement à l'Institut. Et je veux que vous me parliez de comment ça se fait une recherche comme celle-là. Combien de temps ça dure? Qui travaille là-dessus? Combien de personnes? L'enjeu d'une recherche aussi importante, là. Comment ça se construit? Comment ça se fait? Je suis curieuse de savoir comment ça se passe.
Ça me fait plaisir.
Au retour. Alors, on avait envie ce matin de voir le cancer un peu différemment, de s'encourager parce que c'est une bataille qu'on va gagner. Le docteur Lapointe est en train de me convaincre. Alors, on parle des traitements et de la façon de voir le cancer aujourd'hui qui change. Nous sommes en compagnie du docteur Régent Lapointe, directeur scientifique de l'Institut de cancer de Montréal, du Centre de recherche, en fait, du CHUM. Docteur Lapointe, donc, juste avant la pause, on parlait de l'importance de la recherche et on mentionnait aussi tantôt que Montréal et que le Québec étaient une plaque tournante. Et c'est pas des paroles en l'air, là. Vraiment, on fait des travaux ici qui sont remarquables, repris à l'international. Et ces travaux-là sont rendus possibles grâce à des dons que les gens font. Tu sais, quand on donne à la Fondation du cancer du sein, quand quelqu'un décède autour de nous, ça a un impact majeur sur ce qu'on annonce ce matin, là.
C'est en ligne directe. Il y a un effet absolument direct. En premier, je voudrais dire effectivement à Montréal, ce qui nous aide, puis au Québec aussi, pas juste à Montréal, mais nous, on est à Montréal. On a deux nouveaux hôpitaux qu'on a eus. On aime ça,
on aime ça
dans les médias, faire sortir les côtés un petit peu moins positifs, mais on va être positif aujourd'hui. Le nouveau centre hospitalier de santé McGill et le nouveau CHUM, ce sont des cathédrales de recherche et de soins de santé. C'est absolument phénoménal. Et nous, de notre côté recherche, ça fait une énorme différence. Et on travaille en collaboration très serrée avec nos collègues de McGill, avec nos collègues tout autour dans la région de Montréal. Et c'est vraiment extrêmement excitant présentement ce qu'on est en train de vivre en recherche et en recherche en oncologie.
D'ailleurs, vous avez un collègue, je pense, qui a fait un travail qui touchait le cancer des ovaires.
Oui.
Ouais.
Ben, quand on parle de l'importance du don... malheureusement, ça fait partie de la réalité. On a besoin d'argent pour faire de la recherche.
Ben oui, tout à fait.
On a des étudiants extraordinaires, talentueux, qui sont en formation dans nos laboratoires, à la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat. On a du personnel de recherche de très, très haut niveau, de très haut calibre, et on a des chercheurs extraordinaires. Mais ça prend de l'argent pour faire rouler toutes ces
recherches. Et l'argent, il vient pas du gouvernement, là.
Oui.
En partie, mais il vient aussi beaucoup des fondations.
Mais à travers les années, il y a beaucoup, beaucoup plus de chercheurs et de recherches qui se fait, mais les fonds qui viennent des gouvernements sont relativement les mêmes qu'il y a 15 ans presque.
Okay,
je fais une généralité, mais c'est pas mal près de ça. Donc, on a quand même un bon influx qui vient d'organismes subventionnaires gouvernementaux et des fondations externes. Mais on a des fondations locales, comme l'Institut de cancer de Montréal au Centre de recherche du CHUM, qui couvre l'oncologie dans notre centre de recherche. Je peux vous donner l'exemple qui est la découverte de l'année au CHUM l'an passé en oncologie, mon collègue Francis Rodier. En cancer de l'ovaire, les patientes vont recevoir une thérapie qui s'appelle l'olaparib, une bonne proportion des patientes. Ça fonctionne assez bien, mais malheureusement, pour plusieurs patientes, après quelques semaines ou mois, la maladie va revenir. Et ce que Francis a découvert, c'est que quand la maladie revient, c'est que les cellules cancéreuses dorment. Elles sont comme dans le coma, ce qu'on appelle la sénescence. Et c'est ce qu'a découvert Francis. Et il y a des médicaments qui existent contre la sénescence. On peut tuer les cellules sénescentes. Donc, il a mis au point le 1-2 punch. Donc, donner le médicament olaparib et ensuite donner l'anti-sénescence. Et ce travail-là a été publié dans une revue scientifique internationale de très haut niveau, Nature Communications. Et il y a même déjà un essai clinique. Il y a déjà $1 million qui a été investi pour démarrer un essai clinique au CHUM, à McGill et à Toronto pour justement donner l'olaparib avec l'anti-sénescence. Et ce travail-là n'aurait pas pu se faire sans les dons des gens à l'Institut de cancer de Montréal. Et juste pour vous donner une perspective,
oui.
Ça fait 30 ans que ce travail-là a démarré, qu'on pourrait dire, avec la mise en banque d'échantillons cliniques de cancer de l'ovaire de milliers de patientes à travers les années. Et on a pu faire ce travail-là de recherche qui, maintenant, va déboucher sur une nouvelle thérapie.
Bon, c'est ce qui fait que la situation change et évolue. La recherche est à la base de tout. De la prise en charge, de la prévention, de la détection de la maladie avant ou du cancer au stade le plus précoce, mais aussi dans le traitement. Donc, je tenais à parler de l'importance du don parce que je sais, pour avoir travaillé un peu aussi à une émission de santé, à quel point des fois on cherche le financement pour de grandes recherches. Alors peut-être d'inviter les gens à le faire, c'est important.
C'est sûr que moi, je prêche pour ma paroisse, l'Institut oui, cancer de Montréal, oui. Mais il y a d'autres fondations qui sont peut-être plus près de vous et n'hésitez jamais à donner. Pour nous, ça fait une
grande différence.
Magistrale. Et même les deux autres points que vous voulez peut-être parler, encore une fois, c'est encore le démarrage de tout ça, c'est grâce à la fondation, de notre fondation, l'Institut cancer de Montréal, qu'on a pu démarrer ces projets-là.
Oui, parce que dans les technologies qui font qu'on assiste à de petits miracles dans le traitement du cancer aujourd'hui, on a parlé d'immunothérapie, de médecine de précision, mais aussi la thérapie cellulaire et le microbiome. On va entendre beaucoup parler de microbiome au cours de la prochaine décennie. Là.
Absolument. Le microbiome en particulier, encore une fois, des centaines de milliers de dollars d'investissement dans l'Institut cancer de Montréal. Et on a quelques chercheurs au centre de recherche du CHUM, dans l'Axe cancer à l'Institut, qui sont spécialisés sur le microbiome, dont Manuela Santos, Bertrand Routy, moi-même et quelques autres. Et on va démarrer des essais cliniques cette année. J'étais pour dire l'an prochain, mais on est l'an prochain, en 2020.
Ouais.
Et on va démarrer des essais clinique, justement pour modifier les bactéries, la population de bactéries que les patients ont en eux. C'est ce qu'on appelle le microbiome.
Ouais.
On a tous des populations de bactéries différentes, ce qui est normal, mais on a identifié des populations de bactéries qui vont amener des bénéfices chez les patients qui ont cancer pour répondre aux immunothérapies. Et ce que Dr. Routy a réussi à faire, c'est d'attirer des études cliniques ici à Montréal, au CHUM et à quelques autres.
Donc, on parle d'une étude clinique, elle se fait donc avec des patients, avec des gens qui sont atteints de la maladie.
Donc, on parle de deux types de cancers ici. Le cancer de la peau malin, le mélanome, et le cancer du poumon. Il y a deux études différentes où on va donner des bactéries bénéfiques aux patients et on va ensuite les traiter avec les immunothérapies. Et ça va faire en sorte que l'immunothérapie va fonctionner. Et c'est juste l'étude du microbiome en général, c'est absolument renversant. Moi, je suis microbiologiste de formation.
Ouais.
Alors, pour moi, c'est comme phénoménal de voir tout ce qui se passe avec les études du microbiome. Et c'est vraiment, ça a vraiment
c'est porteur,
un impact
là.
Très, très fort. Et oui, les portées, les bénéfices de toutes ces études-là, on est en train de les récolter.
C'est formidable.
Dans les prochaines années, ça va vraiment être important.
Vous avez parlé du cancer du poumon. Je sais qu'à l'Institut, vous travailler beaucoup avec des patients atteints du cancer du poumon. Il n'y a pas si longtemps, puis vous me direz si je me trompe, quelqu'un qui avait un diagnostic de cancer du poumon, c'était une condamnation. Puis là, j'entends autour de moi parler d'histoires de gens qui ont eu le cancer du poumon puis qui sont en rémission aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ou
Non, absolument pas.
C'est fascinant.
Il y a certains types de cancers du poumon qui sont effectivement très très agressifs. C'est pas tous les types, mais en particulier certains types peuvent être oui effectivement très très agressifs et surtout quand ils sont en phase relativement avancée avec des métastases.
Ouais.
Mais maintenant, encore une fois, avec l'immunothérapie à la base. On voit des petits miracles arriver là. Donc c'est absolument renversant de voir ça. Et c'est des patients qui avaient plus d'options de thérapie. Donc ça fait une grosse différence.
Bon, il nous reste une minute à peine. Quel sera votre principal enjeu de recherche en 2020?
Ben, nous, en particulier, je pense que l'immunothérapie va continuer de s'améliorer pour toutes sortes de raisons. On a parlé de microbiome. On lance un programme de thérapie cellulaire immunitaire. Donc, on prend les fameux lymphocytes que j'ai parlé plus tôt. On en fait des milliards dans le laboratoire et on les redonne aux patients. Et on peut pas être bon dans tout à Montréal ou au Québec. On a trop une petite population de chercheurs, mais on a vraiment une expertise extrêmement forte en thérapie cellulaire immunitaire. Et c'est vraiment un projet important avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, nos collègues là-bas, qu'on va démarrer cette année. Et donner généreusement vos fondations, dont la nôtre.
Je suis curieuse, vous parliez de ces études cliniques qui menaient à l'Institut. Est-ce que les patients, ils sont recrutés de quelle façon, Dr Lapointe?
C'est souvent par des références qui vont être faites aux cliniciens, chercheurs qui sont chez nous au CHUM. Donc, parlez-en à vos cliniciens si jamais il y a des opportunités de recherche clinique. Alors, ça donne de l'espoir et encore une fois, on ne fait pas de miracle, mais ça nous permet d'amener des nouveaux traitements révolutionnaires pour les patients qui en ont besoin.
Ben, alors, on invite les gens à avoir une petite pensée pour l'Institut de recherche du CHUM au cours de l'année qui vient. Si vous avez envie de faire un don, vous voyez à quel point ça a des répercussions importantes sur nos vies. Docteur Régent Lapointe, merci beaucoup de votre visite ce matin. C'était très encourageant et porteur de vous entendre.
Merci, c'est très apprécié.
Docteur Lapointe est directeur scientifique de l'Institut de cancer de Montréal, attaché au CHUM, bien sûr.